Ça ne vous aura pas échappé, à quelques semaines des élections, l'Eurobaromètre publié il y a quelques jours par le Parlement européen montre un regain d'intérêt pour ce scrutin. Alors, comment analyser ces chiffres? Vous avez posé la question, ma chère Lucie, à Olivier Costa. Il est politologue et spécialiste des affaires européennes. On l'écoute.
Olivier Costa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des institutions européennes et de la représentation parlementaire. À quelques semaines du scrutin du 9 juin prochain, un sondage Eurobaromètre réalisé sur la période du 7 février au 3 mars auprès de près de 26 000 Européens montre une recrudescence relative de l'intérêt pour ce scrutin, souvent boudé par les électeurs par le passé. Le taux d'Européens se disant intéressés par ce scrutin est passé de 49% en 2019 à 60% cette année, donc plus 11 points à quelques semaines du scrutin. Donc, comment expliquer ces chiffres?
Je pense que les citoyens ne comprennent pas forcément grand-chose au fonctionnement de l'Union européenne, mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'il se passe des choses importantes à l'échelle européenne, que les élections européennes ne consistent pas simplement, comme ça a pu être dans le passé, aller désigner un certain nombre de députés pour siéger au Parlement européen, qui est toujours régi un peu par les mêmes configurations, mais qu'aujourd'hui, les élections européennes ont plus d'impact. Les élections européennes vont aller, d'une certaine manière, déterminer qui aura la présidence de la Commission européenne. Ces élections vont aussi déterminer la ligne politique du Parlement européen. Et même les gens qui ne sont pas très informés savent bien qu'il se joue des choses importantes pour ces élections. On parle, par exemple, beaucoup de la montée de la droite extrême ou de la droite conservatrice, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la ligne politique de l'Union européenne en matière de migration, en matière de politique environnementale, en matière d'élargissement. Donc tout ça, les gens le comprennent. Et évidemment, quand une élection a plus d'enjeux, les gens sont davantage mobilisés pour y aller.
Alors, l'un des thèmes jugés prioritaires, c'est le contexte sécuritaire de l'Union européenne. C'est aussi un peu la surprise de cet eurobaromètre. Les Européens semblent estimer que le contexte international actuel, incluant les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, renforce l'importance de participer à ces élections. Est-ce que là, cela veut dire que les Européens ont confiance en l'impact que le niveau européen peut avoir sur l'avenir des conflits?
Confiance, non, mais pas le choix, oui. C'est pas la peine d'être un grand géopolitologue pour comprendre que le monde est devenu d'une certaine manière un lieu de plus en plus dangereux, où il y a de plus de conflits. On a des grands blocs, la Chine, la Russie, les États-Unis, les BRICS aussi, l'Union européenne, qui sont dans des situations de concurrence. La guerre en Ukraine a ouvert un peu les yeux aux citoyens quant aux enjeux de sécurité. Faut pas oublier que l'Ukraine, c'est pas si loin que ça des grandes capitales européennes, quoi. C'est 1000 kilomètres de Strasbourg, 1500 de Bruxelles. Donc, il y a une idée de proximité ici. Et conjugué au risque que Monsieur Trump revienne aux affaires aux États-Unis, ça pousse les citoyens à repenser les enjeux de sécurité. Il y a 5 ans encore, tout le monde pensait qu'on pourrait éternellement s'en remettre à l'OTAN pour ce qui concerne la sécurité du continent. C'est clairement pas le cas. On a le retour de la guerre sur le continent européen. On a des doutes quant à la capacité de l'OTAN à assurer la sécurité des pays européens. Et donc, les gens voient un peu, par défaut, l'Union européenne comme l'ensemble qui pourrait jouer un plus grand rôle en matière de sécurité. Et l'Union européenne a montré cette capacité à l'issue du déclenchement des hostilités en Ukraine. Je pense que M. Poutine ne s'attendait pas à ce que l'Union européenne se mobilise comme elle l'a fait. On en est au 14e plan de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. C'est pas rien, hein. Il y a eu des impacts et l'Union européenne s'est montrée d'une certaine manière très active sur ces enjeux depuis 2 ans.
Est-ce que c'est le cas pour la guerre au Proche-Orient également? Est-ce que c'est une préoccupation ou c'est juste l'Ukraine?
La guerre au Proche-Orient, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des positions entre les États membres qui sont plus contrastées. On sait que l'Union européenne est une des zones du monde qui a clairement condamné les attaques du Hamas d'octobre dernier, qui a clairement soutenu le droit d'Israël à se défendre contre cela. Si on fait une cartographie du monde, on a en gros les États-Unis et l'Union européenne qui sont les deux blocs qui ont pris clairement position pour Israël dans cette affaire, alors que sur le reste du globe, on a des positions qui sont plus contrastées. Donc là aussi, cet événement a été une façon de clarifier un certain nombre d'enjeux en matière de sécurité internationale, l'idée que tous les blocs n'ont pas la même position sur ces questions, que la Russie, que la Chine, que beaucoup de pays en Afrique que les pays aussi en Amérique latine n'ont pas du tout le positionnement que peuvent avoir les États-Unis et l'Union européenne sur ces questions. Alors l'Union européenne n'a pas de rôle direct à jouer dans la situation au Moyen-Orient, mais simplement ça insiste un peu plus sur cette organisation du monde en grands blocs qui ne pensent pas les relations internationales de la même manière et qui n'ont pas les mêmes politiques.
Alors, vous l'avez dit, on voit déjà se dessiner quand même un comportement disparate parmi les citoyens européens. Par exemple, en France, où ce même sondage montre que parmi les quelques 1 000 Français interrogés, une majorité déclare ne pas être intéressée par les élections, c'est 53%. Peut-on constater un écart important entre les pays où cette tendance est à relativiser?
Il y a des écarts entre les pays depuis toujours sur les enjeux européens. On ne voit pas l'Union européenne de la même manière dans les différents États membres. Et surtout, les citoyens ont tendance à décoder l'Union européenne de deux manières. Un, avec des priorités qui ne sont pas les mêmes. Dans les pays du Sud, on va peut-être plus insister sur le rôle de l'Union européenne dans le développement économique. En France, on va peut-être plus insister sur la question de la puissance, parce que c'est un registre que les Français aiment beaucoup. Aux Pays-Bas ou au Danemark, on va peut-être plus penser à l'Europe comme à un marché. En Allemagne, on va peut-être plus penser à des enjeux de politique commerciale, de politique industrielle. Donc, il y a d'abord, chacun voit un peu midi à sa porte, et l'Union européenne a toujours été un projet un peu vague dans ses objectifs pour contenter tout le monde. Et la deuxième question, c'est la question des bénéfices que les uns et les autres tirent de l'Union européenne à un moment donné. Et là, on voit aussi que ces dernières années, c'est un peu le grand écart entre des pays qui pensent que l'Union européenne leur apporte des choses et d'autres qui commencent à avoir des doutes à cet égard. Et c'est notamment le cas lorsqu'on discute d'argent. Et là, on sait que dans un certain nombre de pays, notamment du Nord, on commence à avoir de fortes réticences à payer davantage pour l'Union européenne, avec le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui payent pour les mêmes.
Mais en revanche, ce même baromètre indique que selon les répondants, et qu'il y a 40% des répondants qui estiment que le rôle de l'Union européenne dans le monde est devenu plus important, et 22% pensent l'inverse. Est-ce que c'est une tendance qui est relativement positive? Comment expliquer comment l'expliquer en termes de perception de l'Union européenne dans la population?
Je pense que ce qui a changé ces dernières années, depuis, on va dire, 15 ans, tout le monde parle de cette grande séquence de crise qui a commencé avec la crise financière de 2009, c'est qu'on a vraiment eu l'Union européenne dans une situation de pompier depuis 15 ans. Une succession de crises, on a eu la crise financière, on a eu ensuite la crise migratoire, ensuite on a eu la crise du Covid et son impact socio-économique, maintenant on a la guerre en Ukraine. Ça a un double effet. Ça peut créer un certain nombre de frustrations. On l'a très bien vu, par exemple, après la crise financière, avec cette idée que l'Union européenne était là pour imposer des politiques d'austérité, pour demander aux États de dépenser moins. C'est de nouveau à l'agenda très fortement, par exemple en France, avec les autorités qui peinent à respecter un certain nombre d'engagements européens. Sur le Covid aussi, l'Union européenne n'a pas forcément eu une action qui a été toujours très très apprécié, mais il y a quand même cette idée que l'Union européenne rend des services, parce que finalement la zone euro elle ne s'est pas effondrée grâce à l'action de l'Union européenne, parce que finalement tout le monde a été vacciné en Europe grâce à cette stratégie européenne de vaccination, parce qu'il y a eu le grand emprunt qui a suivi le Covid, cet emprunt de 750 milliards pour relancer l'économie. On a aussi vu que l'Union européenne faisait front dans la guerre en Ukraine, qu'elle prenait le taureau par les cornes s'agissant des questions d'approvisionnement énergétique. Ce qui s'est passé ces 15 dernières années, c'est que les citoyens ont compris de nouveau à quoi servait l'Union européenne. Et je pense qu'à un moment donné, ça n'était plus très clair, cette idée d'une Union européenne qui passe son temps à réguler des tas de choses qui sont pas forcément très intéressantes pour les citoyens, alors que maintenant, on a le sentiment que l'Union européenne s'occupe ou pourrait s'occuper des questions réellement importantes. Le problème, c'est que l'Union européenne telle qu'elle est, si on examine ses compétences aujourd'hui, n'a pas beaucoup de capacité de faire tout ça. Et toutes ces crises qui ont été réglées ou qui ont été en tout cas gérées par l'Union européenne ces 15 dernières années, ça a été fait de manière un peu un bricolage, souvent à l'échelle des chefs d'État et de gouvernement qui ont essayé de s'entendre. Et ce qui manque réellement, c'est des compétences pour l'Union européenne, de manière à faire ça un peu proprement. Donc ça crée une sorte d'ambivalence dans l'opinion publique. L'idée que l'Union européenne pourrait rendre des services en matière de santé publique, en matière de nouvelles technologies, en matière de lutte contre le terrorisme ou de sécurité, mais qu'elle n'est pas forcément très convaincante dans son action, aujourd'hui. aujourd'hui dans ces domaines.
Et est-ce que cela pourrait avoir un retour de flamme et justement bah, encourager ce qu'on est en train de constater en ce moment, c'est-à-dire que encourager en fait encore plus les tendances à l'euroscepticisme et la montée des nationalismes, parce que en fait c'est ça que montrent quand même les derniers sondages sur les élections européennes.
Oui, vous avez raison, dans de nombreux pays européens, l'extrême droite nationaliste, eurosceptique, a le vent en poupe, c'est clair. Mais il y a quand même une nuance à apporter à ce que vous dites, c'est que même cette extrême droite a changé son discours par rapport à l'Union européenne. Il y a 10 ans, ces partis politiques proposaient la sortie de l'Union européenne ou la sortie de l'euro. Mais on voit qu'il y a eu un changement important avec le référendum sur le Brexit en 2016 et les suites du Brexit, parce que chacun a pu s'apercevoir que sortir de l'Union européenne n'est certainement pas une solution miracle pour régler les problèmes d'un pays. Et il n'est pas besoin d'être un fédéraliste convaincu pour accepter l'idée que pour réguler les GAFAM, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour avoir une politique d'immigration efficace, pour peut-être développer des compétences de l'Union européenne dans le domaine du numérique ou de l'intelligence artificielle et pour des enjeux de sécurité globale, l'Union européenne est plus à même de le faire que 27 pays séparés. Et on voit que que les partis d'extrême droite désormais ont un discours pour l'Union européenne. Ils sont très critiques, mais en même temps ils disent, si nous arrivons au pouvoir, si nous avons la majorité au Parlement européen, c'est exactement le discours qu'a tenu Madame Meloni hier, on va faire évoluer les politiques. On ne veut pas arrêter l'Union européenne, on ne veut pas la démanteler, on veut changer les contenus des politiques. Et ça, d'une certaine manière, c'est le fonctionnement d'un système démocratique normal, où les partis politiques sont pas là pour se battre contre le système, mais pour le faire évoluer dans telle ou telle direction, pour changer la teneur des politiques.
Alors, petite question subsidiaire, cette année en Belgique, les 16-17 ans auront pour la première fois l'occasion de voter également. Est-ce que, selon vous, cela va-t-il avoir une influence déterminante sur ce scrutin ou c'est un peu marginal?
Bah, c'est marginal, forcément, pour des raisons purement statistiques. Voilà, c'est une classe d'âge qui représente 2 ou 3% de l'électorat. Ça va pas avoir des effets importants. En plus, on sait pas du tout quel va être le degré de mobilisation de ces gens-là. Je pense que c'est un mouvement qui est plus symbolique, qui est une façon de dire aux jeunes gens, à partir de 16 ans, bah, vous êtes des citoyens, vous êtes aussi très concernés par les politiques qui sont décidées à l'échelle de l'Union européenne. Et finalement, cette histoire de seuil de majorité pour les élections, c'est un peu arbitraire, parce que les institutions européennes développent beaucoup de politiques qui sont destinées à la jeunesse. La plus connue, celle que tout le monde connaît, ça sera par exemple Erasmus. Erasmus, ça s'adresse pas à moi, ça s'adresse même plus à vous, ça s'adresse à des gens qui vont rentrer dans les études, et donc d'une certaine manière ils sont aussi concernés par ça. On sait aussi que une partie de la jeunesse est très concernée par des enjeux liés à l'environnement, et là aussi c'est une question qui est tout à fait centrale dans les politiques de l'Union. Donc je pense que cette réforme, de ce point de vue-là, a du sens.
Eh bien, Olivier Costa, je rappelle que vous êtes spécialiste des institutions de l'Union européenne et de la représentation parlementaire. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.